Les Gones.
Une émission sur Lyon. Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour et bienvenue chez Les Gones pour cette 5e émission. Les Gones, c'est votre émission sur Lyon. Tous les 15 jours, vous le savez, hein, maintenant, nous vous tenons au courant de l'actualité locale, en jouant avec. Nous vous donnons la bougeotte avec la rubrique sortie. Et en fin d'émission, nous recevons une association. Cette fois, ce sera l'antenne lyonnaise du Salon du Manuscrit. C'est à découvrir tout à l'heure. Mais pour passer une heure avec vous, chers auditeurs, mes Gones, ce sont eux, ou plutôt, ce sont elles. Une gonne qui s'est fait voler sa trottinette, n'est-ce pas Tatiana?
Oui absolument, merci de le rappeler.
Alors comment ça se passe? T'as porté plainte?
Non, je ne veux pas m'engager là-dedans dans des procédures interminables, je laisse.
Je comprends, une gonne qui, quand elle a lu cette phrase de Nathalie Sarraute dans le Planétarium, en a eu les larmes aux yeux, de trouver, oui, enfin, quelqu'un qui la comprenne. Et ses études pas terminées? Sa thèse de doctorat pas encore achevée? Mais c'est si difficile le doctorat, de l'être surtout, c'est le plus dur de tous. Tu es d'accord avec ça, Marie-Ève?
Oui, sans compter toutes les autres activités à côté, alors là c'est ingérable.
Dont Transistor, une gonne qui a fait exploser 3 alcotests quand elle est revenue de ses vacances à Dublin. Une source pas si anonyme, une certaine Matou, la bordelaise, m'a d'ailleurs raconté que tu étais montée sur les tables d'un pub pour réciter Topless du Wild. C'est vrai tout ça, Marie?
Oui, parfaitement. Les miracles de la boulmeur sur le cidre local sont absolument effrayants.
On ne m'avait pas menti. Enfin, 2 gones qui ne sont pas en plateau, mais que l'on salue. D'abord Romain, notre envoyé spécial dans le monde du sport, lyonnais. C'est toi, Marie-Ève, hein, qui va lire sa chronique tout à l'heure. Alors du coup, tu t'es entraînée, t'as dormi avec un short, c'est quoi l'idée?
Non, j'ai écouté YouTube en boucle ce matin pour bien me réveiller en douceur.
Vous verrez pourquoi. Mais alors, Marie-Ève, tu fais du sport? Parce que Romain, c'est quand même un basketteur hors pair, il y a du niveau.
Je regarde le sport.
C'est déjà bien. Enfin, un petit coup de gueule contre EasyJet qui nous fait de la rétention de Florent. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas aux objets trouvés de l'aéroport Saint-Exupéry. C'est juste qu'il aime prendre son temps aux douanes pour bien se faire fouiller. Et puis, Tatiana, cela ne t'empêchera pas d'évoquer ton complice.
Oui, Florent, à très vite.
Bon allez, fini les présentations, il est temps de faire des gonneries. L'actualité nous appelle. Actu donc, on va jouer avec l'information locale, hein. Marie va vous instruire à sa manière sur l'histoire de Lyon. Marie-Ève, on le disait à l'instant, va parler sport grâce à Romain pour la première fois. Mais avant de plonger dans tout ce beau programme et dans Lyon, Tatiana, même sans Florent, eh ben t'as toujours la même mission, le temps d'un jingle, tu te transformes pour nous donner le point de vue d'une gonne sur l'actualité nationale. Et aujourd'hui, un focus sur la campagne, des problématiques particulières. Et pour en parler, une invitée bien placée, Sylviane, mairesse d'une localité rurale, Saint-Picoul. Bonjour.
Oh, bah c'est déjà bien qu'on ose en parler de tout ça. Hein. Parce que moi, je vais vous dire, la campagne, c'est pas que ça. D'ailleurs, là, les gens des villes, je les vois le week-end quand ils viennent se ressourcer, comme ils disent. À croire qu'on se ressource en campagne en 4x4 talons aiguilles, gamin avec les consoles derrière. Ah ça, ça joue à dimanche à la ferme. Hein. Mais moi, je voudrais bien les voir. Hein. À 4h du matin, les yeux en face des trous, devant des pieds de vaches plus ou moins verroulées. Ils feraient quoi? Ils diraient toujours que la campagne, c'est génial. Nous, les bêtes, on les aime. Hein. Et oui, monsieur Lacombe, hein. On les mange. Hein. Et en sauce. Hein. Et on suce les os. Hein.
Oui, très bien, Sylviane. Mais la campagne, aujourd'hui, c'est aussi le bio, c'est les AMAP. Bref, c'est de belles opportunités pour mettre en valeur le territoire. Le terroir aussi, ça donne du crédit à la campagne, non? Vous trouvez pas?
Oh là, mais de quoi vous me parlez, monsieur Lacombe, le bio? Mais attendez, on va leur faire croire n'importe quoi, ces gens des villes. Ils se persuadent tout seuls que dans leur assiette, il n'y a pas une graine de génétiquement modifiée. Mais je sais pas s'il faut leur dire. Hein. Ils croient tout. Hein. Ils croient même qu'il y a des fruits dans la pomme pote, du fromage dans le babybel. Mais à ce rythme, on va bientôt les revendre des salades. tomates sans feuilles sur la courbe. Nous, on est dans le vrai. Hein. Quand les gamins des villes sont allergiques à tout, les dames prennent des compléments alimentaires, ces hommes des vitamines, ben nous, monsieur Lacombe, on n'a qu'un remède. Le bon grog, moitié vin rouge, moitié vin blanc, un peu d'eau pour les plus jeunes. Hein. Deux jours après ça, ça cavale. Hein. Ah, je vous dis que ça cavale. Hein. Quand les autres déteint, des villes teint livides, blanc comme un linge, parce que maman, elle boit du lait de soja. Mais on épargne pas mal de choses. Hein. Prenez ce qu'on appelle l'hyperactivité, c'est quoi cette mode? Mais c'est les parents qu'il faut droguer pour les gamins.
Hein. On s'en met un peu en colère, hein, Sylvain.
Monsieur Lacombe, il y a de quoi être en colère quand même. Et là, vous allez me dire, mais vous pensez que l'État est assez présent en campagne? Mais je vais vous dire, monsieur Lacombe, bah, l'État présent, mais ça veut dire quoi ça? Mais comme partout, monsieur Lacombe, à Saint-Picoul, il y a des élections, et encore on s'est battu hein, pour avoir une urne homologuée. Et l'isoloir.
Ça, c'est bien.
L'isoloir, c'est toujours les sanitaires de la salle communale.
Hein. Ça, c'est moins bien.
Et le 14 juillet, ça nos frais. Hein. Ça reste pour les familles un coup s'élevant à 4 euros, je dis bien 4 euros la barquette, endouillée de frites mayonnaise.
C'est pas mal.
Et là, les rythmes scolaires. Mais c'est sur quel fuseau horaire exactement ça? Madame la ministre, qui dit qu'il faut pas oublier la ruralité, qui dit. Mais enfin, mais depuis, on s'est organisé, hein. C'est-à-dire, madame la ministre, ça fait 30 ans que les CPI étudient avec les troisièmes. On n'attend plus rien. Et puis demain, vous allez proposer quoi? Qu'on fasse monter des structures gonflables modernes pour que les gamins puissent s'étonner à rêver, qu'ils disent. Mais madame la ministre, avec les fonds publics, il n'y a qu'une demi-paire de ciseaux par gamin qu'on peut leur offrir.
Bon alors, on a bien compris, l'État, à vous entendre, Sylviane, il n'est pas forcément présent.
Ah bah ça oui. Ça c'est sûr, monsieur Lacombe. Hein.
Mais chose intéressante. La ville de Saint-Picoul, oui. Elle est reconnue pour son activisme féministe. C'est quand même assez étonnant, on en parle dans toute la presse.
Qu'est-ce ce titre, monsieur Lacombe? Moi, je vais vous dire. Si les féministes, c'est celles qui se baladent les seins nus, bah, y a pas de ça chez nous. Hein. Ah, les femmes de Saint-Picoul, c'est pas ça du tout. Hein. Et puis, ça risque pas de tourner comme ça. On est à cheval sur les principes. Et ça, les hommes, ils bronchent pas. Hein. Mon homme, moi, ça me révolte. Il rentre à 20h des champs. Il est plus capable de rien. Non, mais toute la journée dehors au grand air et ça se plaint. Je vous parlerai pas de ce feignant, alors si on a un conseil à donner à ces femmes, faites comme moi, hein. Foutez-le au boulot de 6h à 21h, c'est un bon minimum. Hein.
Et ben justement, on va en parler de votre homme, comme vous dites, oui. Parce qu'il devait être là au départ, pourquoi il est pas là, c'est un peu privé, voilà. Mais je vous pose la question quand même.
Oh mais celui-là, il s'est pris d'une nouvelle mode, hein. Il fait tout à l'envers, hein, parce que monsieur, lui, il va se ressourcer à la ville. Ah, je veux pas savoir ce qu'il fait là-bas, mais il est revenu celui-là, pue un poil sur le torse. Alors je lui dis, les bêtes, tu les touches plus. Hein. Si c'est pour leur faire une originalité pareille, c'est non. Ah parce que ça, des agneaux sans poils, mais à qui on va vendre ça? Il me dit, c'est pour aller avec les cols échancrés. Mais attends, mais tu vois aussi leur foutre des cols échancrés à tes agneaux? Et attendez, mais il n'y a pas que ça. Hein. La ville, ça lui a monté à la tête. Hein. Moi, j'ai épousé un Fernand. Et je me retrouve avec un clubeur des villes qui s'est fait baptiser sur Lyon, Florent.
Ah.
Mais monsieur renie ses origines. Ben là, avec ses 10 hectares à couper, l'aura pas oublié qu'il est marié avec une Sylviane. Hein. Ah, mon mari, vous le verrez pas. Hein. 3 coups de pied au cul que vous le verrez pas. Hein.
Merci Sylviane pour cette authenticité. Bon courage à Fernand, quand même, alias Florent, que l'on retrouvera prochainement, une fois sa séance d'épilation terminée. Il est temps de jouer, cher Gone, avec l'actualité locale, avec cette première question. Jeudi 20 novembre, une nouveauté débarque à Lyon et aussi dans toute la France. Mais de quoi s'agit-il?
Nouveauté politique?
Pas politique, non.
Culturelle.
Ah, on peut appeler ça de la culture, mais bon, ça serait peut-être vous induire en erreur.
Du culturisme, alors?
Ah non, non. Non, pas de culturisme. C'est à partir de jeudi hein, qu'on va célébrer à Lyon et partout en France, comme chaque année, c'est une tradition, eh bien, quelque chose.
C'est un rapport avec Noël.
Non. Si je vous dis comme indice, Juliennas, Saint-Amour, Moulin à Vent, vous pensez à quoi?
À quelqu'un qui m'a demandé dans la rue où était Moulin à Vent un jour et je ne savais pas et maintenant je sais.
D'accord.
Mais je ne sais pas si ça va m'aider en fait.
Non, je ne pense pas. Peut-être qu'avec un indice sonore, ce sera... plus simple.
T'es beau, je l'ai nouveau. C'est vachement moderne. Touche pas à mon globo. Non, non, non.
Pachung sur Transistor, il vous a donné la réponse, si vous avez bien entendu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est nouveau?
Qu'est-ce qui est vachement moderne?
Et qui est nouveau en novembre? Chaque année.
Le Beaujolais. Ah, c'est le Beaujolais nouveau, c'est bien ça?
Mais oui, c'est le Beaujolais nouveau.
Enfin. Ah oui, bah en effet, c'est pas culturel. Hein. Le Beaujolais nouveau, on boit pas de vin dégueulasse, nous, c'est pour ça qu'on n'est pas au courant.
Bah, 30 millions de bouteilles, quand même, hein, sont produites en 2014. Et oui, c'est bien le Beaujolais nouveau qui sera dégusté à partir du jeudi 20. Mais alors, toi, ouais, justement, parce que t'es quand même un peu l'apochtrone de l'équipe, t'as tiré à me dire. Tu vas alors, sortir jeudi, là, pour la dégustation
alors,
du Beaujolais nouveau.
Généralement, quand on boit comme ça, on évite de sortir. Alors, sortir, je sais pas. La dégustation, sûrement. Après,
Je sais pas. Mais alors, Marie, parce que je me rends compte, en fait, que j'ai des accros de la bibine autour de la table. Marie, et toi, tu vas y aller dans la rue?
Mais des accros de la bonne bibine, Thomas. Moi, le Beaujolais, bibine, je crache dedans.
Oh là. Bon, alors, s'il y en a une qui est sage, qui sauve d'ailleurs cette émission par son aura, c'est Marie-Ève. Alors, en plus, elle est gastronome.
Oui, sauf que tu m'as démoli ma prochaine chronique, mais ça fait rien. Mais...
elle est vindicative. Bon, le Beaujolais, ça te parle?
Ben, on en a fait gratuitement au Resto U à Strasbourg à l'époque où j'y étais.
C'est qu'elle est radine, la Marie-Ève. Hein.
Des dégustations de Beaujolais au restaurant universitaire.
Mais
à Strasbourg.
À Strasbourg.
Ah ben, c'est
joli. Je vous donnerai l'adresse.
Bon, alors en tout cas, si vous voulez déguster du Beaujolais nouveau et pas à Strasbourg, je vous conseille de migrer vers Confluence mercredi 19 novembre à partir de 20h pour faire la fête d'abord, notamment avec un défilé à 23h15, retraite au flambeau et tout et tout. Mais surtout, à minuit, au 12e coup, ça y est, c'est parti. On perce les tonneaux et vous pourrez déguster du Beaujolais. En veux-tu, en voilà, puisque comme chaque année, 450 litres de vin nouveau sont offerts aux Lyonnais. C'est maintenant à vous de jouer, chers auditeurs, comme mes gones, et vous gagnerez peut-être en partenariat avec le Ninkasi une place pour le concert de Lofofora le jeudi 4 décembre au Ninkasi KO. Lofofora, c'est ça. Je sens que Marie a envie de gagner cette place.
Oh oui, mais j'ai pas le droit de participer.
Et vous, si vous voulez participer, chers auditeurs, rien de plus simple. Il vous suffit de répondre à cette question. À partir de quel cépage le Beaujolais nouveau est-il réalisé? Vous avez la réponse? Inscrivez-la dans la partie commentaire de la page de l'émission. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous rappelle que, grâce à nous et à notre partenaire, le Comédia, vous pouvez également gagner 2 places de cinéma. Pour ça, il faut envoyer vos photos les plus décalées, les plus insolites de Lyon. Les gones se réunissent à la fin du mois pour désigner le meilleur cliché. Détail des jeux disponibles sur notre site. Robert Sabatier disait « Lyon est une ville arrosée par 3 grands fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. » Une grande historienne, toujours très délicate, raffinée, sensible, jamais à dire une vulgarité, jamais une allusion sexuelle, déclarait
« Entre le massif central et les Alpes, il y a le site de Lyon, et au milieu coulent 2 rivières. Le Rhône vient des Alpes, la Saône vient du seuil de Lorraine. Au niveau de Lyon, ils baisent, ils font lit commun, ils ne font plus qu'un. C'est beau l'hydrographie. »
Bon alors Marie, qu'est-ce que c'est que ce travail-là? On n'est pas précise, on m'a oublié le 3e fleuve qu'est le Beaujolais?
Oh non, mais attends, alors déjà, il ne faudrait pas dire fleuve, il faudrait dire rivière, hein, si on veut être rigoureux géographiquement.
C'est qu'elle est géographe en plus, tous les défauts cette fille en fait. Bon, mais comme je suis magnanime, je vais te donner l'occasion de te rattraper. On t'écoute nous parler de l'histoire de Lyon et sans rien oublier cette fois.
Lyon au 11e siècle, c'est un beau western. Du genre, c'est pire que s'il y avait des mines d'or, plus du pétrole. Les comtes du forêt, les chanoines et l'archevêque rejouent le bon, la brute et le truand. Je vous laisse voir qui est le truand. Bref, tout le monde veut Lyon, et la guerre dure 2 siècles. En 1173, l'archevêque et le comte signent un traité. La ville reste aux mains de l'église. En latin, le traité s'appelle la permutatio. Je vous dis ça parce qu'une pote m'a dit de le faire. Ma pote, elle s'appelle la pédanterie. Du coup, c'est pas comme ça qu'on va copuler et faire des gosses. La démographie stagne. Lyon s'étend vaguement vers Croix-Rousse et Saint-Paul. On a un premier pont de pierre sur la Saône, au niveau de Saint-Nizier. Dessus, on nage en plein délire. Je viens de penser que ma phrase est con, parce qu'on peut pas nager sur un pont. Mais on nage quand même en plein délire sur ce pont. Il y a des maisons, des boutiques, et je sais pas comment les gens font pour passer. Côté Rhône, c'est la zone. Toujours pas de pont, pas de foire, pas d'habitation. Les rives du Rhône, c'est la Creuse. La croissance économique de Lyon au XIe-XIIe siècle, on la sent moins passer qu'une mimole. Pourtant...
Oh non, ça je ne cautionne plus, là, c'est trop là.
Pourtant, il y a un mec qui trouve qu'il est trop riche encore. Le mec, c'est Pierre Valdo. À la fin du XIIe siècle, il décide de vivre, comme tous les ordres mendiants cool du Moyen-Âge, pas de sexe, drogue et pauvreté. Valdo donne tous ses biens à sa femme et aux pauvres, et il quitte sa femme pour rejoindre les pauvres. Moi, je me serais posé des questions. Avec des disciples, ils deviennent les pauvres de Lyon. Ils sont contre la richesse, l'enrichissement et l'emprunt à crédit aux juifs pour se payer en 40 annualités une maison sur la presqu'île. Du coup, l'archevêque les aime pas trop. Il les expulse en 1183. Donc Lyon XIIe, c'est spirituel, mais pas trop. On a des églises, mais elles sont moches ou en ruine. Alors, on les rénove. Sous le patronage de Sainte-Valérie d'Amido, on a déjà refait Ainay, Saint-Just et Saint-Paul. Surtout, on reconstruit la cathédrale Saint-Jean. L'archevêque Guichard de Pontigny, qui rime avec bourse fournie, entame le travail. Oui. Dans le nord de la France, tout le monde fait du gothique. À Lyon, on dit fuck et on continue à faire du roman. Un siècle plus tard, on se dit que merde, on aurait dû faire du gothique. Du coup, on fout quelques dentelles histoire de dire. Moi, je suis de Normandie. Le gothique, c'est dans mon patrimoine génétique. Et Saint-Jean, je peux vous dire que ça ressemble à rien. Comme tous les architectes au Moyen-Âge, ils ont commencé un truc. Ensuite, ils n'avaient plus les moyens. Ensuite, ils ont continué. Ensuite, ça a traîné sur 10 siècles. Ensuite, ils ont fini à peu près. Et ça donne un truc trapu avec une façade à plis. On n'y a pas trop retouché. Et depuis, Saint-Jean a cette drôle de bobine de bulldog.
Retour au présent, on continue de jouer avec l'actualité locale grâce à cette question. À qui doit-on cette citation ? La différence entre le Beaujolais et le Parti communiste, c'est que le Beaujolais est sûr de faire 12%. Alors c'est quand même l'événement, chers Gones, chers auditeurs. La question d'actualité, donc du coup, sont très orientées, vous l'aurez compris, pour fêter le Beaujolais. Je fais dans le thématique. Alors, oui. Cette citation, à qui
alors,
on la doit ?
Un élu lyonnais.
Non, de... pas du tout, alors vraiment pas.
Alors, pas du tout.
Thomas, je tiens à préciser que c'est avec modération toujours, en principe.
Oui, il faut le préciser, c'est bien. Mais alors, précise-moi sans modération qui est l'auteur de cette citation, plutôt que faire la valide.
Bah, si c'est pas quelqu'un de l'actualité lyonnaise, on n'est pas trop censé savoir, donc
c'est
va
pas
être difficile.
Quelqu'un de l'actualité
là.
Belle mentalité, belle mentalité. Non, il est mort. Petit indice, il a eu le César du meilleur acteur en 1984. Peut-être que ça peut vous aider pour vous mettre sur la voie de... C'est quand même une citation assez drôle. La différence entre le Beaujolais et le Parti communiste, c'est que le Beaujolais est sûr de faire 12%.
Dans les années 80, quel acteur ? Donc c'est un homme ?
Ouais,
un
c'est
comique,
un homme.
Un comique,
un acteur comique des années 80, un... très connu.
Ah bah très Coluche.
Mais oui, c'est
oh
Coluche.
Non, merci
Marie. Oh là là. D'accord.
Bien sûr, c'est Coluche. Bon, remarquez qu'aujourd'hui, le Parti communiste, c'est plutôt le taux d'alcoolémie d'un panaché. Mais bon. Bon.
Hein. On te laisse la paternité du commentaire. Hein.
C'est très bien. Bon, en tous les cas, chers auditeurs, selon la formule rituelle, le Beaujolais nouveau, il faut le consommer avec modération. Marie-Ève vous l'a dit. Modération, et puis faites du sport aussi pour rester en bonne santé. Et pour cela, Marie-Ève, grâce à notre envoyé spécial Romain, tu vas nous tenir au courant de ce qu'il se passe dans les vestiaires. Allez, c'est parti, il va y avoir du sport.
Et aujourd'hui, on commence avec le basket. Et oui, avant, une nouvelle voix. Et puis en plus, on déstructure complètement la chronique. On est des malades, nous.
Oui, effectivement, oui.
Basket donc avec l'ASVEL. Tony Parker a fait le ménage et a renvoyé Pierre Vincent, le coach de Villeurbanne.
Toi, tu dis Tony Parker ?
Bah, à l'alsacienne.
Tu dis Harry Potter
aussi, oui. À l'alsacienne, bien sûr.
Je sers le personnage.
Je pimente la chronique avec mon accent.
Oui, c'est bien.
À la clé, une conférence de presse où l'ex-entraîneur miaulait comme un petit chat sans sa mère à ses côtés, d'un tipi heureux de s'en débarrasser. Pardon, je recommence ma phrase.
Oh, ça va être beau, ça va être beau.
Pardon, Romain. À la clé, donc, une conférence de presse où l'ex-entraîneur miaulait comme un petit chat sans sa mère à côté, d'un tipi heureux de s'en débarrasser. Je ne comprends toujours pas. On peut en effet attribuer le mauvais départ de l'ASVEL à son coach, qui n'aura pas su insuffler le goût du collectif à des joueurs d'une grande envergure. D'ailleurs, quelques jours après son renvoi, une victoire a été enregistrée. C'est déjà Noël par hasard ?
Ah ben ouais, bien.
Passons ensuite au sport le plus brutal du monde, le hockey sur glace. Et comme dans tous les autres sports, l'équipe lyonnaise, les Lions, pas très original comme surnom, ne gagne pas. Ils sont en effet sur 3 défaites de rang en championnat français.
Eh ben.
Le LHC va essayer de se rattraper dès le prochain match contre Morzine. Et en parlant de Morzine, ils sont sous le coup d'une enquête judiciaire pour utilisation abusive de reblochons. Football, rien ne va plus à l'OL masculin. Même pendant la trêve internationale, qui fait faire une pause dans la Ligue 1 aux Lyonnais, les Rodaniens sélectionnés en équipe de France pour le match face à l'Albanie ont été simplement mauvais ou très inconstants. Bizarre déjà de la part de notre Dédé national et champion du monde des buveurs de pastis d'avoir choisi Jérémy Jallet et Alexandre Lacazette, alias respectivement le crâne en peau de fesse et Kretman. Déjà d'un point de vue capillaire, ce n'était pas le mieux à faire, et apparemment du point de vue du jeu de jambes non plus. En effet, si Alexandre Lacazette a connu sa première titularisation, il n'a rien montré de probant sur le terrain. Quant à Calimero et son crâne dégarni à la Alain Juppé, il a été précieux en attaque, mais inutile, voire effrayant, sur le plan défensif, alors qu'il joue, rappelons-le, au poste de défenseur droit.
Ah bah bravo, bravo.
En tout cas, grâce à Griezmann et son fameux regard loucheur, son regard de dragueur, l'équipe de France a arraché le nul. Petite dédicace au présentateur de cette émission.
Effectivement, oui.
Et à présent, parlons du foot féminin pour se remonter un peu le moral. Ou pas, puisque les Lyonnaises ont été éliminées en Ligue des Champions face aux Parisiennes de façon trop cruelle, selon le site officiel de l'Olympique Lyonnais. Alors que la domination était en effet rodanienne. Si même l'OL féminin perd, où va le monde? Fuyez, pauvre fou.
Et dire qu'elle a écouté YouTube en boucle ce matin pour vous faire la voix de Gandalf, pour faire fuyer, pauvre fou.
Mais après, il y avait le cri du Hobbit qui était affreux.
Tant d'investissement pour rien.
Je sens que ce sera Tatiana qui fera ma chronique la prochaine fois. Et pour terminer cette merveilleuse chronique, passons au clin d'œil de Romain. Aujourd'hui, nous n'allons pas très loin, juste devant notre poste de télévision en fait, pour assister au match réussi du 15 de France dans leur victoire 29-26 face aux Australiens. Constatons donc que dans la sélection de Philippe Saint-André, le sélectionneur français qui avec ses yeux bleus et son teint maladif me fait penser à un membre de l'équipe des Gaunes,
ah oui,
n'a pas choisi de sélectionner un seul joueur du Lyon Olympique. Peut-être, je dis bien peut-être, est-ce dû à leur dernière place ? Et c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très vite Romain pour une nouvelle chronique sportive. Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le...
Bouquetin
kangourou raté.
Et si on sortait maintenant, chers auditeurs, pour cela, vous le savez, on se la joue collaborative puisque chaque gonne va vous donner ses bons plans, ses envies de sortie. Mais d'abord, elle est en train de changer de tenue sous nos yeux. Marie-Ève is the new sexy. Elle enfile un tablier. Oh, finalement, je sais pas si c'est toujours très sexy.
Oh, plus que tu ne le penses, attention.
Ah, Tatiana, tu trouves ça sexy, là, le changement de...
C'est pas ça, c'est que je te trouve là un petit peu,
Un petit peu quoi, un petit peu quoi.
Non, mais on pourrait faire ça un jour.
Écoute, chacun son tour, Tatiana.
Tout dépend si on porte quelque chose sous le tablier ou non, en fait.
C'est bon. Bref, c'est très sexy, le tablier, excusez-moi. Et d'ailleurs, tu vas nous faire saliver avec quelque chose qui est très Lady Gaga, finalement, parce que ton tablier que tu vas enfiler, il est tout en viande, le temps d'un jingle. Et chers auditeurs, vous l'aurez peut-être deviné, on parle du tablier de sapeur.
Aujourd'hui, nous allons parler de cuisine lyonnaise, mais aussi de feu, chaud devant, de messe, et je ne parle pas de religion,
chaud devant,
mais d'officier, et de dunes lointaines. Prêt pour le dépaysement ?
Allez, c'est parti.
A priori, le tablier de sapeur paraît inoffensif et ne se prête pas du tout au rêve d'ailleurs. Imaginez-vous, un petit triangle pané fait de tripes de bœuf. C'est en effet une spécialité conçue à partir de gras double, ou de bonnets nids d'abeilles, ou encore de fraises de bœuf. Parenthèse, savez-vous ce qu'est le gras double ?
Je sais pas, moi j'en ai croisé souvent dans ma vie, mais après...
C'est du gros lard avec...
Mais non, justement, c'est du lard tout mince.
C'est
du lard tout mince.
Ah,
Ah, eh oui, bah, parce que c'est la membrane de la panse, c'est-à-dire l'une des quatre parties de l'estomac du bœuf.
Ah bah ça donne envie là tout de suite.
Voilà. Donc cette viande, entre guillemets, est cuite au bouillon, puis marinée dans le vin blanc. N'est-ce pas Sylviane ? On voit que
absolument.
Le vin est vraiment partout. Et puis bien sûr, le tablier de sapeur ne serait pas le tablier de sapeur sans sa forme de triangle, et la viande doit toujours être découpée ainsi.
Ah oui.
On peut ensuite paner le tout et le frire. En principe, ce plat est plutôt une entrée, mais il peut tout à fait servir de plat de résistance si vous l'accompagnez de pommes vapeur et de la fameuse sauce gribiche.
Ah,
une sauce
gribiche.
Faite à base de jaune de cuit et de moutarde, mélange auquel on incorpore de l'huile. Bref, très énergétique tout ça, et pas bon pour le régime, n'est-ce pas Tatiana?
Comment elle doit le prendre?
Ça déborde partout dans son tablier à la Tatiana.
Tu pourras te manger après, ne t'en fais pas. L'avantage avec la sauce gribiche...
Mais c'est vraiment Marie-Ève.
Mais c'est parce que Tatiana est toute fine, oh là là.
Ah mais oui.
L'avantage avec la sauce gribiche, c'est qu'on peut varier ses assaisonnements. Peut-être en fonction de la personne que vous invitez d'ailleurs. On peut mettre de l'ail, de l'échalote, du persil, de l'oignon, de la ciboulette, des capres, des cornichons et j'en passe. J'ai lu qu'avec le tablier, tout à fait par exemple.
Du Nutella.
Peut-être pas. Sucré salé en plus, je n'aime pas trop. Hein. J'ai lu qu'avec le tablier de sapeur, il valait mieux faire une sauce gribiche avec la ciboulette. Allez savoir pourquoi, je n'ai pas étudié les vertus de la ciboulette et ce n'est pas le propos de ma chronique. Un peu d'histoire à présent pour connaître l'origine du nom de cette fameuse sauce.
Oui.
Cette fois, tout le monde est bien d'accord sur la version officielle à adopter.
Ah,
c'est toujours une question de corporation portant tablier.
Mais ça, il y en a tellement.
Le tablier de sapeur était ainsi originellement appelé, dans la plus pure tradition lyonnaise, tablier de Gnafron.
Ouais.
Gnafron est donc ce personnage du théâtre de marionnettes lyonnais.
Guignol !
Ami de Guignol, exactement Thomas.
Guignol.
Je connais quelqu'un qui fait le guignol, et même le mariol. Hein.
Ouais, non, c'est
donc
facile,
ami de Guignol
facile.
Est savetier, c'est-à-dire fabricant et réparateur de savates, de chaussures, et à ce titre porteur d'un tablier pour son travail, et également pochard bien connu, n'est-ce pas ?
Ouais. Et là, elle regarde Tetsada droit dans les yeux.
Oh, il ne faut pas faire les commentaires, Thomas.
Je suis payé pour ça, madame.
Le nom de ce plat aurait ensuite été changé en hommage au maréchal de Castellane, gouverneur militaire de Lyon sous Napoléon III, qui était grand gastronome, amateur de tripes et surtout ancien sapeur du génie. Et voilà, on y arrive. Savez-vous donc ce que sont les sapeurs du génie ?
Oui, c'est ceux qui construisent des ponts, construisent des mines, etc. Pour,
plus souvent des mines que des ponts, j'ai l'impression.
Ouais.
Parce qu'ils sont chargés des ouvrages le plus souvent souterrains qui permettent renverser et de dynamiter un édifice et puis de faciliter le passage des armées à travers les terrains difficiles.
Parfait.
Leur devise est d'ailleurs « parfois détruire, souvent construire, toujours servir ». Or, ces soldats portent en plus d'une barbe, toujours obligatoire, de gants à crispins et d'une hache, un tablier en cuir pour les protéger des éclats de bois et limiter les risques d'éventration sur les obstacles en cas de chute.
Il est en triangle, leur tablier ?
Mais justement, j'y viens. Ah. Le symbole du tablier est resté parmi les sapeurs du génie actuel et ce tablier est de couleur fauve et assez large. D'ailleurs, il recouvre une bonne partie du corps. Et on le voit très bien dans les défilés. Il est donc facile d'identifier les sapeurs le 14 juillet sur les Champs-Élysées et vous penserez à moi l'été prochain, n'est-ce pas ?
Oh ben oui.
D'autant plus que certaines troupes spécifiques les font même défiler en tête de cortège, puisque par tradition, ils ouvrent le chemin. Il s'agit de la... de la Légion étrangère, donc, qui a la particularité de compter ses propres sapeurs, aussi nommés les pionniers. Est-ce pour cela qu'en langage argotique, le tablier de sapeur évoque certaines dunes dont je vous laisserai deviner la géolocalisation ? Je précise que c'est un rapport avec la fameuse pilosité qu'évoquait Sylviane dans sa chronique.
D'accord.
Quoi qu'il en soit, revenons à la discipline militaire avant que tu ne partes à volo dans cette chronique.
Oh,
et revenons
fait,
du même coup à la gastronomie, car tout le monde sait bien que les hymnes militaires parlent souvent de nourriture. Et en particulier l'hymne que chantent les fameux sapeurs pionniers de la Légion étrangère. En avant, marche, chers camarades gastronomes, mais d'abord, au garde à vous, s'il vous plaît.
Voilà du boudin, Tatiana, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Ah bah oui, bah, la dernière fois, c'était aussi un truc très entraînant, comme ça, allez, on va boire un petit coup à la maison.
Bon, sinon une idée de sortie peut-être.
Alors,
pour nos auditeurs,
oui, bon,
qui t'écoutent avec toujours attention.
C'est vrai que parler là depuis tout à l'heure, bon, donc, c'est peut-être un petit peu lourd, mais
c'est
là,
trop là le vin,
c'est pas ça, c'est que je vais pas réussir à sortir de ça pour autant, parce que du coup, petite proposition de sortie, c'est les marchés de Noël,
et
je suis une grande fan des marchés de Noël, pour ce qu'on peut proposer
le
à manger, à boire, ou du vin chaud, mais du coup... Marie-Ève, qui est là aussi alsacienne,
je vois bien l'allusion,
connaître
tout
le Glühwein.
Ah.
Voilà.
Et le Kinder Glühwein, quand on est petit,
oui,
avec des épices à la place.
Oui, c'est ça, et puis des petits jus de fruits. Voilà, mais, non, oui, oui. Mais c'est très bon aussi.
Très bien, donc tu nous conseilles d'aller sur les marchés de Noël en
voilà.
novembre.
Alors,
c'est ça l'idée.
Très très bon conseil sorti, ça encore. Qui doit être... Oh, c'est bon. Chacun ses rendez-vous culturels, j'ai envie de dire. Merci.
Et toi, Marie-Ève, c'est quoi ton rendez-vous culturel?
Je précise que la SNCF propose un rendez-vous au marché de Noël de Strasbourg aussi, pour pas cher, donc tant qu'à
d'accord.
faire.
Il y a aussi des actions à la SNCF?
Tout à fait, en ce moment, oui.
Eh ben, dis donc.
Donc après le cours de parler alsacien que je vous ai proposé tout à l'heure avec Tony Parker, n'est-ce pas? Je vous propose un cours de parler lyonnais. Samedi 22 novembre donc prochain, donc dépêchez-vous hein, après la sortie de cette émission, à l'Institut Gardette de 15h à 17h. Toutes les autres informations sont sur le site des Amis de Guignol.
Très bien. Bon alors si je comprends bien, personne n'a prévu d'aller place des terreaux, hein, c'est ça? Personne.
Alors place des terreaux.
Non, pas trop. Vous allez voir, je vous y emmène tout de suite avec ma chronique Insolitement Lyon. Vous le savez, chers auditeurs, hein, je vous raconte les secrets de Lyon, tout ce que vous ne savez pas, des monuments ou des rues que vous connaissez pourtant, et tous ces petits détails que vous manquez en passant tout à côté. Renouvelez votre abonnement TCL, achetez-vous une bonne paire de baskets. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Lyon. Je vous emmène place des terreaux, constatez que la Garonne coule à Lyon. Si, si, je vous assure. Alors bon, ok, j'ai eu 3 à mon oral d'agrég de géographie.
Ah bah
mais
bravo.
Je vous assure que la Garonne coule à Lyon. Certes, à Lyon, la présence de la Garonne confine au symbole. Ça fait intelligent comme phrase, non?
Oui. T'inquiète pas.
Bon, je la refais encore mieux. Certes, à Lyon, la présence de la Garonne confine au symbole, mais Goethe ne disait-il pas « Tout ce qui passe n'est que symbole !» Bref, la Garonne n'est pas vraiment à Lyon, vous l'aurez compris. Mais sur la place des Terreaux, la fontaine, avec la bonne femme qui monte ses seins en plomb martelé, flanquée de 2 braillards joufflus qui doivent un peu la gêner pour conduire son char, tiré par 4 canassons, eh ben, v'là-t-il pas que c'est la Garonne? Et comment que c'est-il possible que ça soit la Garonne, hein? Attention, les 15 secondes de sérieux de cette chronique vous sont présentées par Cochonou, le saucisson comme on l'aime chez nous. Oui bon, on a les sponsors qu'on peut ou qu'on mérite. Hein. En 1857, la ville de Bordeaux décide de faire réaliser une fontaine pour la place des Quinconces. Elle lance un concours que remporte Frédéric Auguste Bartholdi, le sculpteur à qui l'on doit la statue de la liberté. Sauf qu'en 1857, Bartholdi a 23 ans. 15 secondes! Autant dire que la statue de la liberté n'est même pas encore dans le ventre de sa maman, qui est un homme. Ou comme on dit à Lyon, la quenelle n'est pas encore rentrée dans le four. Bartholdi a donc la statue de la liberté en germe. D'ailleurs, c'est une histoire de bourse qui fait que la mairie de Bordeaux abandonne le projet de construction d'une fontaine. Ce projet, il reste au placard, mais il en sort pour l'exposition universelle de Paris en 1889, soit 32 ans plus tard. Si on résume, c'est donc à Paris que des Lyonnais voient la fontaine initialement prévue pour Bordeaux et construite par un habitant de Colmar, petit-fils d'un maire de Ribeauvillé qui entre-temps est devenu célèbre à New York. Vous suivez? Bref, ils l'ont acheté. Et on finit par cette citation d'actualité hein, en cette semaine de dégustation du Beaujolais Nouveau. Une citation toujours issue de la plaisante sagesse lyonnaise rassemblée par Catherine Bugnard. Pour que le vin fasse du bien aux femmes, il faut que ce soit les hommes qui le boivent. Alors, Insolitement Lyon, c'est une chronique, mais c'est aussi un concours photo. Bah oui, envoyez-nous vos photos les plus extravagantes, les plus inventives, les plus insolites de Lyon via Facebook. Et tous les mois, eh bien, les gones se réunissent et élisent leur coup de cœur. Si vous êtes ce coup de cœur, bah, il y a 2 places de cinéma offertes par Le Comédia à gagner selon les conditions disponibles dans le règlement du jeu disponible sur le site.
Puisque tu parles du Comédia, Thomas, oui, un petit conseil sorti de notre partenaire lundi 24 novembre à 20h. C'est l'avant-première du documentaire Salto Mortale en présence de son réalisateur et du funambule Antoine Rigaud.
T'as tellement une belle voix, Tatiana, mais un funambule ?
Oui, salto mortale, oh, c'est l'histoire vraie et pleine de courage d'un funambule virtuose qui, en 2000, est victime d'un accident et qui le laisse paralysé. Mais plutôt que de s'éloigner de la scène, Antoine Rigaud va faire de cette paralysie le sujet de ses spectacles où il est toujours question d'équilibre.
Eh bien, un parcours de vie hors du commun, dis-moi, mais... au Ninkasi, tu nous conseilles quelque chose aussi, non ? Je crois.
Un concert gratuit,
Ah,
Thomas.
Tu vois, je le savais, je le savais.
Alors, du coup, à noter, prochain concert coup de cœur du Ninkasi KO, le vendredi 12 décembre, où tu pourras, Thomas, et je sais que tu adores ça,
et
applaudir le trio hip-hop à tendance trap, oui. The Posters. Ils viennent de Montréal et ça donne ça. Bitch, lick my black balls. I'm so southern, fucking sexy. Nate Hudson, dog, bitch. Roll with my huskies, but don't pet me. That'll just be a pet peeve. You can get bit in your neck. Watch your neck bleed. Bon, ils ont un super flow. T'en penses quoi, toi, Marie?
Je devrais passer ma vie au Ninkasi KO.
Ah, je pense, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Mais un conseil sorti, peut-être.
Alors, je m'adresse à vous, chers auditeurs, qui allez encore acheter vos cadeaux de Noël au dernier moment. Donc, si vous cherchez déjà des idées, précipitez-vous en sortant, après avoir écouté cette émission, puisque du 20 au 23 novembre, place de la Bourse au Palais du Commerce, il y aura le marché des soies. Et c'est donc l'occasion d'acheter des cravates, des carrés, des foulards. Personnellement, j'irai sûrement, parce que j'ai décidé de m'acheter un carré de soie par année que je passerai à Lyon.
Ah, c'est un bon plan, ça, moi, je trouve. Très, très beau rituel. Et je pense que vous avez, avec tout ça, chers auditeurs, de quoi eh bien, sortir, vous occuper d'ici deux semaines dans Lyon. Et si vous ne savez toujours pas quoi faire, eh bien, si vous reste du temps libre, en fait, vous pouvez l'employer de façon utile. Vous pouvez vous engager, militer. Du côté de l'associatif à Lyon, il se passe plein de choses. Et c'est justement par là que nous vous emmenons dans la dernière partie des Gones. Dans la dernière partie de l'émission, nous mettons en lumière une association de Lyon. Aujourd'hui, nous recevons l'antenne lyonnaise du Salon du Manuscrit, réseau social littéraire à vocation éditoriale, selon un caractère participatif. Alors, le Salon du Manuscrit, en chiffres, ça donne quoi, Tatiana et Marie ?
Alors, la fondation d'une antenne du Salon du Manuscrit à Lyon ?
C'est tout frais, c'est tout récent. C'était le 3 mars 2014.
Avec combien d'adhérents, Marie ?
1150.
Et un budget de ?
15 000 euros par an.
Merci. Et pour parler de cette association, nous recevons Bénédicte.
Bonjour.
Vice-présidente du Salon du Manuscrit. Alors, le monde du livre, vous connaissez bien hein, parce que vous êtes éditrice. C'est votre profession au sein de la Maison de la Fiction. Et vous êtes aussi auteur, hein, je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, tout à fait.
Oui, vous avez signé en mars 2013 un roman sorti aux éditions des Chemins de Traverse intitulé Porte de sortie, mais pour nous c'est vraiment pas le moment
sujet,
de se.
Ah
non, pas ça. C'est pas le moment de se diriger vers la porte de sortie, mais de commencer l'interview.
Alors,
c'était une petite
d'entrée.
Blague nulle.
Oui.
Voilà. Alors je vous pose cette première petite question. Imaginons hein, que je suis un jeune auteur. Le Salon du Manuscrit, c'est une maison d'édition participative. J'ai un manuscrit là, tout beau. Je viens de le finir. J'en suis très fier. Je fais quoi pour être édité par le Salon du Manuscrit ? Je fais comment ?
Alors, si le Salon du Manuscrit n'existait pas, vous feriez comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que vous auriez travaillé pendant 2 ans pour laisser votre manuscrit dans votre tiroir, malheureusement,
oui.
Après moult tentatives via la poste.
Oui, c'est souvent le cas.
Avec
ouais.
Des réponses qui sont un petit peu stéréotypées. Vous ne rentrez pas dans notre ligne éditoriale, bien souvent. Alors, la question, ce n'est pas de savoir si vous avez du génie ou pas. Je suis persuadée que vous en avez
du
reste.
Gentil, c'est gentil.
Mais c'est de savoir à quel moment vous pouvez potentiellement penser que vous êtes éditable et pouvoir vous situer par rapport à un lectorat. C'est ça. Et
alors,
c'est ce que propose le Salon du Manuscrit. Maintenant, vous n'allez pas laisser votre manuscrit dans votre tiroir.
Oui.
Vous le mettez sur notre site.
Oui.
Vous aurez 2000-2500 lecteurs et ils vont vous dire ce qu'ils en pensent en respectant votre travail. Personne ne va broyer votre travail, bien sûr. On va simplement vous dire, bah, écoutez, Thomas, voilà, page 8, je m'embête.
Ouais.
Page 9, là, le personnage, il me semble pas très, très crédible.
Donc, l'intérêt, finalement, du Salon du Manuscrit, c'est qu'il y a tout de suite un retour. C'est ça, là, l'intérêt.
C'est ça. On veut rompre avec la médiateté qui existe dans le monde du livre, où, finalement, c'est l'éditeur, via le prisme de l'éditeur, via sa sélection, qui va décider des ouvrages qui vont être lus ou non. Là, non. Édité ou pas, vous êtes lus. Voilà. C'est pas forcément, tout n'est pas forcément génial, mais tout peut progresser. C'est un projet de type amélioratif, en fait. On veut permettre aux auteurs de pouvoir se positionner pour pouvoir s'améliorer.
Et c'est une belle philosophie, je trouve. Au départ, le Salon du Manuscrit, d'ailleurs, c'est un regroupement de clubs de lecteurs issus de toute la France.
Oui.
C'est important, ça, on l'entend bien. Vous le dites déjà, que les lecteurs, ils aient voix au chapitre en matière d'édition. C'est important.
On propose sur ce site justement au lecteur de pouvoir se positionner par rapport à des textes et en deuxième intention au lecteur de décider des ouvrages qui sont publiés ou non. Et c'est ça qui est intéressant. Le lecteur a donc deux fois la voix au chapitre. Un, en tant que membre d'un comité de lecture, et deux, en tant qu'éditeur, puisque c'est lui qui va décider des ouvrages qui sont à publier ou non. Tout en sachant malgré tout qu'on a une politique éditoriale. Le lecteur, le public, ne va pas décider de tout. On a quand même aussi une marge de manœuvre. Ça, c'est important.
C'est quoi cette politique éditoriale ?
La fiction. On veut des personnages, des vrais personnages. On veut une trame narrative, une vraie trame narrative. Voilà, on veut quelque chose qui soit
poésie, théâtre,
éminemment,
vous ne faites pas.
Éminemment fiction. Alors, on peut le faire parfois par coup de cœur.
Donc ça reste de l'exception.
Tout à fait.
Alors, on parle de ce qui reste. Qu'est-ce qui reste des clubs de lecteurs qui ont été la base de cette association ?
Eh bien, ils sont membres de, de notre structure. Pour la plupart, ils sont bénévoles, donc, et on est en train de monter des cafés manuscrits. Ah. Alors, nous avons 3 cafés manuscrits à Lyon et 7 qui vont fonctionner à Paris à partir de décembre, 1 à Toulouse à partir de janvier et à Lille, je ne sais pas, très bien encore, en partenariat avec la DRAC du Nord.
Alors à Lyon, une adresse sur ces 3 cafés manuscrits.
Alors, Café J'adore.
Le Café J'adore, c'est
où ? Le Café J'adore, à la Croix-Rousse.
La Croix-Rousse.
Rue Burdeau.
Très bien, eh bien c'est noté, chers auditeurs.
C'est un quartier sympa en plus.
Ah oui, c'est sympa, la Croix-Rousse, c'est super.
Ou Happy Daily Food, Cour Lafayette.
D'accord, ça en fait 2 sur 3.
Oui. Et vous avez la cloche. Sur
Parfait.
La cloche rue de la Charité.
On a été exhaustif du coup. Vous décrivez sur votre site le Salon du Manuscrit comme un réseau social littéraire. C'est important cette idée 2.0, cet aspect connecté ?
Bah, carrément.
Ouais.
Plus que ça même. Dans les années 80, dans les années 2000, il n'y avait pas ça. C'est une opportunité extraordinaire et qui va révolutionner à terme le monde de l'édition, c'est évident. À partir de là, il faut savoir surfer un petit peu avec non pas la mode ni la vague, mais avec les réalités de la technologie et l'évolution. Si on n'évolue pas avec l'évolution, on est déjà mort. Et l'édition doit évoluer.
Alors vous avez prononcé le mot de mode, le Salon du Manuscrit joue la carte du financement participatif et c'est très à la mode. On pense à My Major Company, pour la musique. C'est juste un effet de mode.
Alors, nous, on n'est pas dans cette logique à 100% de crowdfunding, puisque ce sont des souscriptions. On veut respecter l'objet livre. Le livre est un objet qui est éminemment culturel, donc c'est pas n'importe quel objet de consommation. À partir de là, on estime qu'on ne va pas demander aux internautes de financer en investissant, etc. Non, on acquiert l'objet et on soutient un auteur. Bien sûr que la logique de crowd, de foule, qui va porter un livre, on y croit, bien sûr. C'est à la foule de porter un livre. Et en tout état de cause, ça a toujours été la foule qui portait les livres.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Oui, mais votre association, c'est comme My Major Company, c'est comme Ulule pour les financements européens. »
Non.
En fait, c'est
non,
opportuniste.
Non, parce que My Major Company ni Ulule ne vont parler des bouquins en amont de l'édition. Nous, on fait un travail de... On est une plateforme qui va permettre de réunir les lecteurs et les auteurs. Ça, c'est la première des choses. Réseau social littéraire. Deuxièmement, effectivement, le lecteur peut acquérir l'objet. Voilà, comme dans tout e-commerce.
Bon, c'est une affaire de conviction. On l'aura bien compris. Et je vais citer votre slogan. Éditer, c'est l'affaire de tous. En quoi c'est l'affaire de tous, en fait, éditer ?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un livre pour Kant ? Un livre, c'est un texte qui est lu.
Tout simplement.
Tout simplement. Donc éditer, c'est effectivement l'affaire de tous.
Alors bien sûr, quand on lit ce slogan et quand vous nous l'expliquez, on a un peu l'impression que vous dirigez quelques pics vers les grandes maisons d'édition, parce qu'avec eux, l'édition, c'est peut-être pas l'affaire de tous.
Alors, ça c'est... Non, 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 moi je ne m'oppose à personne, j'aime tout le monde, vous savez, il n'y a pas de
soucis. Bisounours, Bénédicte.
Tout à fait, tout à fait. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a la possibilité pour tout un chacun d'exister, sachant qu'avec les technologies modernes, l'impression numérique à la demande et les réseaux sociaux, voilà, on peut retrouver une convivialité, une immédiateté entre l'auteur et le lecteur. Et c'est ça qu'on veut défendre en priorité. Dans Gallimard et les autres, ils sont tellement gigantesques, c'est des monstres, ils ont participé à l'élaboration de la culture française, du patrimoine français. C'est pas nous qui allons leur dire ce qu'il faut faire.
Alors, sur votre site internet, quand même, peut-être on peut avoir des petits conseils que vous donnez aux maisons d'édition. Entre les lignes, on arrive à lire ça. Vous dites notamment que l'édition, elle doit être créative. C'est quoi cette idée de... Parce que d'habitude, quand dans le monde du livre, ceux qui sont créatifs, c'est les auteurs. C'est quoi une maison d'édition créative ?
Eh bien, voilà, le fait est que la crise économique est là. Les maisons d'édition ont toutes un petit peu du mal à boucler les fins de mois. C'est la raison pour laquelle on va effectivement avoir des livres people sans viser personne encore. Moi, je suis bisounours, vous l'avez dit tout à l'heure. Qui vont permettre à certaines maisons d'édition de boucler les fins de mois. C'est dommage. C'est dommage, on aimerait que la littérature reste un petit peu digne. Voilà, c'est pas un bon.
Elles ne sont pas assez créatives, les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition, où c'était Gallimard tout à l'heure.
Alors pour être créative, je pense qu'il faut être petit. Les dinosaures avaient du mal à être créatifs et à s'adapter à des mutations, à des mutations de climat. Donc
finalement, quand on creuse bien, Bénédicte, vous n'êtes pas si bisounours que ça. Je vous propose une petite pause musicale avec Albin de la Simone, qui est... un peu plus comme vous, Bénédicte, vous allez l'entendre, que notre ministre de la Culture, Fleur Pellerin, puisqu'il nous chante un extrait de « J'aime lire » sur Transistor.
J'aime lire l'album de la comtesse, l'étresse et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. De guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire.
Alors, quelques questions plus personnelles maintenant, Bénédicte, si vous le permettez. Pourquoi vous avez choisi de militer dans cette association, le Salon du Manuscrit ?
Parce que j'adore écrire et que j'adore lire, ouais. J'aime lire et que je trouve que. Les manuscrits dans leur ensemble sont assez étonnants. Mmh. Il y a quelque chose, le niveau moyen est vraiment super. Et à partir de là, il y a un vrai travail à faire en France de pédagogie, ouais, pour que l'auteur puisse s'améliorer. Donc on a effectivement aussi un autre projet, c'est qui est de fonder une école d'écrivains en avril.
Un beau projet, ça.
Oui. Un beau projet, oui. On se demande même pourquoi ça n'existe pas encore. Ouais. Ça existe dans les pays anglo-saxons, peu en France, enfin pas en France. Donc voilà, moi je trouve ça extraordinaire de pouvoir participer à une véritable aventure éditoriale et littéraire.
Dans votre site, on peut souscrire, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commander un livre, hein, tout simplement.
Tout à fait.
L'objectif, c'est une fois qu'un niveau de publication est atteint pour l'œuvre, eh bien, ça y est, on reçoit ce livre qu'on a commandé. Vous avez déjà participé à ça ? Vous avez déjà souscrit à un livre ?
Ah bah bien sûr, ouais. Oui, tout à fait. J'ai souscrit à Fugue n'est pas joué, qui va être publié donc par la Maison de la Fiction. J'ai souscrit à L'Obscur des Jours.
Ouais.
Oui, oui.
Tout ça
bouquins.
Sur le Salon du Manuscrit.
Ah oui, ouais. Tout à fait. Oui, moi je joue le jeu. Bien sûr, bien sûr.
Et lequel vous a marqué ?
C'est que j'ai trouvé très très bien écrit. Bénédicte, ouais. Froger Delis pour L'Obscur des Jours a une véritable patte. On a une petite, on a une Régine Desforges là, sous nos yeux, bien sûr. Thierry Goutard dans Fugue n'est pas joué, c'est un tout autre style, mais il y a une trame narrative qui nous porte de la page 1 à la page 218. On ne cesse pas de lire ce bouquin, on ne referme pas ce livre. Donc il y a un véritable miracle, il y a une petite magie. voilà, c'est un super bouquin. En plus, ça se passe à Lyon, donc moi, je suis pas du tout... voilà, ça me séduit aussi par rapport à ça. Mais on a effectivement des livres qui sont... Qui méritent d'être publiés. Il faut les publier. Il faut qu'ils puissent atteindre un plus large public.
Ça, vous en parlez certain. Avec passion, c'est vraiment super. Je vais finir avec cette question rituelle en quelques mots. Qu'est-ce que c'est pour vous l'engagement associatif ?
J'ai toujours travaillé, moi, avec la passion, avec ce que j'appelle l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est être habité par Dieu, littéralement. Ouais. Voilà, donc si on n'a pas ça, je trouve ça très dommage. On passe à côté de sa vie. Un peu de passion, voilà.
Ce seraient les mots passion, enthousiasme, je vous remercie. Je vous laisse maintenant, après un jingle, entre les mains de mes drôles de gones du jour.
Jean-Pierre ?
Je vais répéter la question.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Alors Tatiana, tu as forcément une question à poser à notre invité, Bénédicte.
Alors bon, du coup j'ai bien entendu la présentation très claire. Je voulais poser une question, j'espère qu'elle ne va pas déranger ou peut-être un petit peu trop...
Ah bah si ça me dérange, je m'en vais, mais c'est
pas... D'accord, alors très bien. Donc j'y vais, j'attaque. Allez. Alors j'ai eu ce sentiment-là, et c'est une question vraiment là-dessus. J'ai l'impression que, si vous voulez, il y a un risque dans cette association envers le public visé. Donc, c'est-à-dire, voilà, pourquoi pas, on s'imagine un jeune qui a un manuscrit à déposer. Je me suis dit, est-ce qu'on ne vend pas du rêve ? Est-ce qu'on ne vend pas du rêve à ce jeune-là ?
Est-ce qu'on n'est pas des magots ?
Est-ce que vous n'êtes pas des magots ? Est-ce que vous ne vendez pas trop de rêves en disant, voilà, vous serez publié après 35 ?
Non, on n'est pas des magots du tout. Le bouquin qui arrive, il est lu. Il est commenté. Sur 300 manuscrits qui ont été déposés, il y en a deux qui vont en librairie. Il n'y a pas de démagogie.
D'accord. Est-ce que vous avez des partenariats avec des libraires ? Parce que finalement, même si le livre finit en librairie, on sait bien qu'il faut qu'il y ait ce partenariat avec le libraire qui
non,
va
avec
lui
un distributeur-diffuseur. Avec qui lui fait ce travail. C'est un autre métier.
Donc ça,
l'édition.
Voilà. Vous avez ce
partenariat. On a ce partenariat, bien sûr. On a un distributeur-diffuseur qui s'appelle World Book Center et qui s'occupe, comme tout distributeur-diffuseur, de la gestion des stocks, de l'acheminement chez les libraires, etc. etc.
Mais pas
etc.
de la relation avec le libraire. Parce qu'on sait bien que dans une librairie, on arrive et on voit un bouquin petite maison d'édition.
Si, c'est le distributeur-diffuseur qui demande à ce que le bouquin soit en tête de gondole. Voilà, là, on est plus dans le côté commercial, de façon à ce que le libraire puisse mettre en avant le livre et soit incité lui-même à lire le livre pour pouvoir en parler. C'est aussi ça, le réseau de librairies en France est extrêmement intéressant parce qu'on a encore plein de petites librairies avec des libraires qui jouent merveilleusement bien le jeu et qui sont des vrais conseillers littéraires pour des gens qui arrivent en librairie en disant « Oh là, je ne sais pas quoi lire, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ?» Et là-dessus, il faut vraiment jouer avec le réseau de librairies qui existe en France, qu'on ne retrouve pas au Canada ni dans les pays anglo-saxons, mais en France, on a ça, c'est une chance extraordinaire. Donc, on ne va pas s'émanciper de ça. Au contraire, on joue complètement le jeu de la carte librairie. Là où on va rompre la chaîne du livre, c'est dans la sélection. C'est tout.
Alors, le réseau de librairie en France, il est épatant, mais le réseau des questions de Marie, il l'est aussi.
Moi, j'ai peur.
Une question peut-être.
Alors, donc vous avez parlé tout à l'heure des bouquins que vous proposiez à la souscription. Vous avez cité certains que vous avez achetés.
Oui.
Ça vous arrive d'acheter des livres que vous n'avez pas lus ? Ça vous arrive d'en utiliser pour caler votre bibliothèque ? Ça en a...
Ah non, surtout pas. Ah non, jamais. Je respecte trop les livres, j'adore trop les livres. Vous savez, j'ai fait des études de philo, j'ai 2000 bouquins chez moi. Non, je ne vais surtout pas acheter un bouquin que je n'ai pas lu. C'est impossible. Au contraire. Non, c'est pas possible. Non, vous m'offensez.
Alors, Disney avait le retour de Jafar, les gones font mieux, c'est le retour de Tatiana.
Non, mais tout à l'heure, vous avez parlé de Gallimard, mais du coup, est-ce que vous pouvez vraiment... Enfin, vous avez une haine viscérale contre ces...
Ah non, pas du tout.
Parce que j'ai eu l'impression vraiment... Alors, en plus, attaquer cette illustre...
Ces institutions illustres, bien sûr. Non, il est hors de question d'attaquer qui que ce soit. Simplement de se reposer un petit peu la question de l'édition et de pouvoir permettre à tout un chacun d'exister. Voilà, je crois que chacun peut avoir sa petite place dans ce monde, sachant pertinemment aussi... que l'édition, les éditeurs traditionnels fonctionnent un petit peu sur un modèle qui, à mes yeux, dans 20 ou 30 ans, sera peut-être dépassé.
Et du coup, là, il y a eu les concours récemment. Vous pensez que c'est du pipeau, alors, la sélection ? Et je crois que c'est
Joker.
Paix et amour, on t'a dit, Tatiana.
Peace and love.
Voilà. Merci d'être venue, en tous les cas, Bénédicte.
Merci, nous parler, c'est moi qui vous remercie.
Du Salon du Manuscrit. Plus d'informations sur votre site www.salondumanuscrit.fr. Un grand merci à Léo, à la technique et à l'ensemble de NS Media, notamment Mathias qui a aidé à l'installation du studio. Un grand merci également à Clément qui secondait, préposé au jingle qu'il est. Merci à vous aussi, surtout chers auditeurs, n'hésitez pas à envoyer vos réponses à la question de la semaine, je la répète, à partir de quel cépage le Beaujolais nouveau est-il réalisé, ainsi que vos photos les plus insolites de Lyon dans le cadre de notre concours mensuel. Puisque vous le savez, grâce à nos partenaires, le comédien Eline Casi, il y a de beaux cadeaux à gagner. En tous les cas, je vous donne rendez-vous exceptionnellement le mardi 2 décembre, oui, pour le numéro 6 des Gones. Vous avez bien compris, nous serons en effet en direct, en streaming sur notre site internet de 16h à 17h parce que le 2 décembre 2009, Transistor diffusait pour la première fois des émissions. Le 2 décembre 2014, faites le calcul, cela fera 5 ans. Alors, on marque le coup. Je vous donne rendez-vous à partir de 13h30 pour toute une après-midi de direct. Nous, en tous les cas, on y sera. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries.